C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole lors de cette journée Henri Corbin, que je n'ai pas connue directement, hélas, lorsque je suis arrivé à Paris et j'entreprenais mes études d'orientalisme. J'ai connu Madame Corbin et par personne interposée, mon maître Georges Vaïda était le collègue de Corbin à l'école pratique de hautes études. Donc je vais vous parler en fait d'une interprétation d'un passage central des cinq livres de Moïse, le Pentateuque. Il s'agit du chapitre 32 de Genèse, des versets 25-33. Alors vous n'êtes pas sans ignorer que la lecture du Pentateuque est divisée en 52 sections et donne lieu à une lecture liturgique tout au long de l'année. On appelle ça des péricopes. Et par un curieux hasard, il se trouve que le passage concernant la consécration de Jacob transformé en Israël sera lu tout à l'heure dans toutes les synagogues du monde. C'est la péricope du combat
de Jacob avec l'ange. Donc c'est encore un hasard, peut-être c'est le chiffre 14, encore que nous allons parler de la moitié du 14, 7. Hein, vous allez retenir ce chiffre. Donc je vais présenter dans un premier temps l'interprétation midrashique, c'est l'exégèse du texte à la lumière des sources rabbiniques. Nous passerons ensuite à l'interprétation philosophique, notamment sous la plume du plus grand philosophe de la tradition hébraïque, Moïse Maïmonide, qui est mort en 1204. Sa position a donné lieu à tout un chapitre de l'histoire de la pensée hébraïque, à savoir la controverse maïmonidienne. Les gens ont réagi assez vertement aux positions de Maïmonide, en particulier dans le camp kabbalistique. Donc nous allons voir un peu la réaction kabbalistique aux positions philosophiques, pour terminer ensuite avec un mot d'Henri Corbin qui va nous mettre sur la voie ishraqi, la voie de l'interprétation illuminationniste, avant d'arriver bien entendu à notre conclusion. Donc lorsque j'ai commencé ma carrière il y a une quarantaine d'années, je pouvais être sûr, lorsque je parlais de la tour de Babel, l'arche de Noé ou le combat de Jacob, que tous les étudiants connaissaient de quoi ils se retournaient. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que cette position n'était pas acquise d'emblée. Et c'est pourquoi je préfère... Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de projeter ce texte qui était mon intention première. Donc, je m'excuse auprès de vous et je vais devoir le lire pour rafraîchir la page de ce chapitre 32, Genèse 25 à 33. Mais avant d'arriver à la lecture du texte, il faut peut-être camper le contexte, s'agissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un passage charnière qui va marquer à la fois l'histoire juive, avec un mythe fondateur, c'est le nom d'Israël, d'une part, et d'autre part, c'est un passage assez exceptionnel, étant donné qu'il sera également le fondateur d'une prescription religieuse, l'interdit de consommer le nerf sciatique, et ce qui fera partie d'un nombre très restreint de prescriptions religieuses pré-sinaïtiques, c'est-à-dire qu'avec la révélation sur le mont Sinaï, il restait très peu de prescriptions de l'ancienne révélation, celle des patriarches. Bon, ça pourrait donner lieu à un développement intéressant sur la succession des révélations, même au sein du judaïsme, mais ce n'est pas ici le lieu. En tout cas, nous allons y revenir tout à l'heure. De quoi s'agit-il ? Alors, vous vous souvenez peut-être que Jacob était le frère d'Ésaü. C'était en fait des frères jumeaux.
mais avec une légère priorité donnée, antériorité donnée à Ésaü, ce qui faisait que le droit d'aînesse lui revenait d'emblée. Mais, pour aller très vite, Jacob achète le droit d'aînesse d'Ésaü qui lui en veut, et en particulier au moment où les deux se présentent devant Isaac, le père de Jacob et Ésaü, qui doit donner sa bénédiction à ses enfants et transmettre la tradition patriarcale. Là, il s'avère que Jacob, par une ruse, emporte la bénédiction qui était destinée à l'aîné, et ce qui lui valut un ressentiment très profond de la part de son frère, qui cherche même à le tuer. C'est pourquoi Jacob s'enfuit très loin, il se réfugie chez un oncle en Canaan, Laban, chez qui il passe presque toute une génération, après avoir épousé les deux filles de Laban, Rachel et Léa. Donc il y a une crise entre le neveu et l'oncle, et Jacob en chemin pour regagner la terre d'Israël et le patrimoine patriarcal. Quel est l'accueil qui va lui être réservé par Ésaü? C'est l'angoisse qui hante Jacob à ce moment, et il envoie des messagers en avant qui reviennent pour lui dire: Ésaü est au courant de ton retour, il vient à ta rencontre entouré de 400 hommes. Alors, est-ce que cette rencontre va être l'occasion de l'éclatement du conflit qui dure depuis une vingtaine d'années, les deux frères ne se sont pas vus entre-temps, ou est-ce que ça va être l'occasion d'une réconciliation ? Maintenant que tant de temps est passé. Voilà où nous en sommes. Alors Jacob, craignant qu'il va y avoir un conflit armé avec son frère, il se sépare, il divise sa famille, qui est nombreuse, ses biens, en deux camps, et il les envoie en arrière, et nous dit le texte, voici que Jacob est resté seul. Donc nous sommes au verset 25 que je vous lis. Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Soudain, des ténèbres surgit un personnage mystérieux, appelé dans le texte tout d'une manière anonyme, Ish, encore que ce terme est chargé de signification dans la tradition exégétique. Et cet homme, l'accoste, se montre hostile. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, alors les prénoms sont un peu vagues, c'est l'ange, enfin celui qui va se révéler comme étant l'ange, ne pouvant vaincre Jacob, il lui presse la cuisse, il lui inflige une blessure, et la cuisse de Jacob se luxa, tandis qu'il luttait avec lui, avec l'homme mystérieux. Il dit, l'homme mystérieux, ce dernier, « Laisse-moi partir, car l'aube est venue. » Il répondit, « Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. » Il lui dit alors, « Quel est ton nom ?» C'est l'homme mystérieux qui demande à Jacob. Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as jouté contre des puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. » Bon, ceci est presque incompréhensible sans l'original hébraïque, car le mot « jouté », « sara » en hébreu, c'est la même racine que « Israël ». Et en fait, le nom « Israël » signifie « il lutta avec des puissances célestes », elle étant un des noms de Dieu. Jacob l'interrogea à son tour en disant, « Apprends-moi, je te prie, ton nom. » Il répondit, « Pourquoi t'enquérir de mon nom ?» Et il le bénit alors. Jacob appela ce lieu Peniel, qui veut dire la face de Dieu en hébreu,
parce que, et c'est la position de Jacob, parce que j'ai vu un être divin face à face et que ma vie est restée sauve. Le soleil commençait à l'éclairer lorsqu'il eut quitté Peniel. Il boitait alors à cause de sa cuisse. Alors, juste une petite parenthèse, dans la tradition du judaïsme arabophone, on pratiquait la traduction arabe du Pentateuque due à Saadia Gaon, une des grandes figures de l'époque post-talmudique, qui est mort en 940, à qui on doit la première traduction arabe faite par un juif et qui va être canonisée presque par la tradition au point où encore de nos jours, les communautés arabophones qui s'amoindrissent malheureusement, lisent chaque semaine cette traduction. Alors, le soleil commençait à l'éclairer, Vezarha Hashemesh, en hébreu, ou plutôt, pardon, Vezrah Lo Hashemesh. Le soleil a éclairé pour lui. Saadia traduit Wa Ashraqat Shems. Et nous avons là ce terme qui est très cher à Henri Corbin, Ishraq. N'est-ce pas le lever du soleil, le lever de l'aurore. Donc, Jacob boite, et là, nous avons l'injonction prescriptive. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent point aujourd'hui encore le nerf sciatique qui tient à la cavité de la cuisse, parce que Jacob fut touché à la cavité de la cuisse sur le nerf sciatique. Et lorsqu'on dit jusqu'à aujourd'hui, c'est effectivement le cas. C'est une loi pré-sinaïtique qui perdure encore de nos jours. Il y a une suite dans ce que je voulais vous lire, à savoir le verset du chapitre suivant, où il est question du lever du soleil. Et alors, chapitre 33, verset 1, Jacob, levant les yeux, aperçut Ésaü, qui venait accompagné de 400 hommes. Il prit le devant et se prosterna contre terre 7 fois. Retenez le chiffre 7. Il va revenir tout à l'heure. Avant d'aborder son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Et là, c'est un moment extrêmement dramatique. Qu'est-ce que va provoquer cette rencontre entre deux frères hier ennemis jurés? Et il l'embrassa. Yahabbekehu en hébreu, de la racine habaka, qui va revenir tout à l'heure également, se jeta à son cou et le baisa. Donc, une conclusion assez surprenante à ce passage chargé, comme je l'ai dit, d'une dimension extrêmement dramatique. Quant à l'interprétation midrashique, évidemment, on essaie dans un premier temps de découvrir, de démasquer l'identité de ce personnage mystérieux. Et le Midrash propose tour à tour trois possibilités. C'est marqué « Veillez avec Ish Imo » et un homme lutta avec lui. « Yé avec » venant de la racine « Aleph Bet Kof » « Avak ». Et Ish Imo, le Midrash attire notre attention sur le fait que c'est les mêmes consonnes en hébreu, un détail près, que les mots Ésaü Edom. Edom étant un synonyme, c'était le territoire d'Ésaü, donc un synonyme d'Ésaü. Alors, cet homme serait, nous dit le Midrash, Saro Shel Esav. C'est le génie ou l'archange de Ésaü qui livre le combat à Jacob. C'est très intéressant parce qu'on est presque dans un domaine psychanalytique. Par Jacob, alors il y a une proposition que nous allons voir tout à l'heure, que tout ce chapitre s'est déroulé sous forme d'un songe. Donc dans son rêve, il livre combat à son frère. Et dans son rêve, il y a l'interrogation, cette rencontre sera-t-il amicale ou hostile? Donc, première interprétation, ce personnage mystérieux ne serait autre qu'une projection mentale d'Ésaü, son frère. Deuxième explication, qui surprend un petit peu parce que dans l'exégèse rabbinique, le mot « ish » que j'ai évoqué tout à l'heure, « homme », lorsque celui-ci est anonyme, et dans le contexte d'une apparition, signifie en général l'ange Gabriel. Nous avons un autre exemple un peu plus loin dans le livre de Genèse, Genèse 37, où Joseph rencontre dans le champ, dans les champs, il rencontre un personnage également non identifié, Ish, un homme, et là la tradition rabbinique nous dit que c'est Gabriel. Mais ici, les rabbins identifient cet Ish avec Michaël, qui est également un des quatre anges, un des quatre archanges, et qui a ceci de particulier, il est chargé, il a une charge sacerdotale, c'est lui qui offre, pour ainsi dire, dans les régions célestes, les offrandes que l'on connaît dans le temple d'en bas, et étant donné que Jacob lui-même, c'est le sens à cette époque, avant la fondation du caste sacerdotal, les Kohanim, comme vous le savez, je pense, le sacerdoce revenait au premier-né. Donc Jacob est en quelque sorte un Kohen, il a cette fonction sacerdotale. Et il est donc l'équivalent terrestre de Michaël, qui est le prêtre, le pontife céleste. Et donc la dispute serait au niveau de l'ascendant du sacerdoce terrestre contre le sacerdoce terrestre. Ce serait le fond du combat. Et enfin, une autre exégèse nous propose, en se fondant sur la réponse donnée par le personnage mystérieux à Jacob, « Pourquoi tu me demandes mon nom ?» Et il dit « Quel est ton nom ?» Et donc ton nom ne sera plus Jacob mais Israël. En fait, cet ange c'est Israël. Donc c'est une projection de Jacob lui-même. Rashi, quant à lui, un des grands exégètes du XIe siècle, qui habitait en Champagne, de la tradition donc, on peut dire française, attire notre attention sur le mot qui est au centre de ce chapitre et qui génère en fait tout le drame qui se dégage, à savoir le mot « avak », lutter. Et Rashi propose, c'est un apax d'égoménon, c'est un mot qui a une seule, unique occurrence dans ce contexte dans la Bible, et il le rapproche avec une racine araméenne, avak, qui veut dire la même chose que habak, habak enlacé, serré contre soi. Car Rashi dit, dans un combat, les deux lutteurs s'enlacent et s'engagent, ce qui est signifié par ce terme avak. Il nous propose une autre explication, c'est que ça viendrait effectivement d'un mot hébreu, non pas araméen, un mot hébreu, avak, qui veut dire la poussière. Car les lutteurs, lorsque ils se livrent au combat, ils soulèvent la poussière autour d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux mots sont très liés du point de vue de l'orthographe, avak pour poussière ou se serrer, habak, embrasser. La différence entre ces deux verbes, finalement, c'est les consonnes aleph et het, hein, qui changent tout le sens. Or, ach, le mot ach en hébreu, signifie frère, la fraternité. C'est la fraternité qui est en jeu. Cette fraternité sera-t-elle avak, sera-t-elle source de conflit, sera-t-elle conflictuelle, et donc la poussière, ou sera-t-elle habak, l'enlacement fraternel? Et nous avons la réponse dans le verset que j'ai ajouté à la fin, dans le chapitre 33.1, lorsque les deux frères se rencontrent, c'est le verbe qui est utilisé pour décrire cet enlacement. Il est dans le mode de habak, ou il a enlacé fraternellement. Voilà donc quelques éléments sur le plan midrashique qui nous donc met d'emblée dans la problématique soulevée par ce passage. Passons à présent à l'interprétation philosophique. Là, je voulais projeter le texte de Maïmonide qui provient de son œuvre majeure, son Magnus Opum, le guide des égarés, Dalalat al-Ha'irin en arabe. Dans la deuxième partie de ce livre, Maïmonide passe en revue toutes les possibilités des modalités prophétiques, allant des apparitions, des songes, jusqu'au dialogue avec Dieu face à face, qui était le privilège de Moïse, le prince des prophètes. Et dans le chapitre 42 de la deuxième section du guide, Maïmonide, comme je l'ai dit tout à l'heure, mort en Égypte en 1204, aborde la question de l'ange. Quelle est la fonction de l'ange dans les songes prophétiques? Pour Maïmonide, qui représente le courant rationaliste dans le judaïsme, les anges, comme êtres nimbés de lumière, avec des êtres ailés, n'existent pas. Ce sont, en fait, il interprète le mot « ish », un homme, c'est le terme par lequel on désigne également les anges, sont en fait les intelligences célestes que l'on connaît du système des philosophes arabes, des philosophes arabes de l'école aristotélicienne, notamment Al-Farabi, qui met en place entre l'unicité de Dieu et la multiplicité du monde phénoménal une série d'intelligences en mode descendant. Ils sont au nombre de 10, la dixième étant en rapport, s'appelant l'intelligence agente ou l'intellect actif, qui est un peu, comme on pourrait utiliser un terme moderne, l'interface entre le monde métaphysique et le monde physique. Et pour Maïmonide, et également pour la tradition philosophique arabe, l'intellect actif est identifié avec l'ange de la révélation. Dans les deux traditions, il s'agit de l'ange Gabriel. Alors, Maïmonide dit ceci dans le chapitre 32, que là où il y a, comme nous avons déjà exposé, partout où on a parlé de l'apparition d'un ange ou d'une allocution faite par lui, il ne peut être question que d'une vision prophétique. Donc, d'abord, c'est comme il n'y a pas de réalité physique à ces êtres que l'on voit en songe, il s'agit nécessairement pour Maïmonide d'une apparition prophétique ou d'un songe prophétique. N'importe que l'on ait ou non déclaré expressément, comme cela a été dit précédemment, c'est-à-dire même s'il n'est pas, dit qu'il s'agit d'un songe, et c'est effectivement le cas du passage sous étude, mais dès que le mot « ish » apparaît, l'ange, pour Maïmonide, il ne s'agit plus d'un événement réel, mais un événement qui se passe dans ce « mundus imaginalis » cher à Henri Corbin, dans le monde imaginal où se déroule où sont reflétés les archétypes métaphysiques. Et je saute ce passage, j'arrive à la fin, je dis de même que dans l'histoire de Jacob, quand on dit « et un homme lutta avec lui », il s'agit d'une révélation prophétique, puisqu'on dit clairement à la fin, c'est le verset 2 de ce chapitre, que c'était un ange. Et cette lutte, ainsi que tout le dialogue qui suit, eurent lieu dans une vision prophétique. Alors, donc, les choses sont claires pour Maïmonide. Ce chapitre, malgré sa centralité comme mythe fondateur du nom même que portera le peuple et son destin, le nom d'Israël, c'est une projection mentale qui se passe au niveau de l'imagination de Jacob. Or, la réaction des fidéistes et des antirationalistes, on peut dire en quelque sorte, les mystiques, ne s'est pas fait attendre, puisque Nahmanide, à ne pas confondre avec Maïmonide, il s'agit de Rabbi Moshe Bar Nahman, qui est né à Gérone, en Castille, et dont les dates se situent aux alentours de 1194, mort en Terre Sainte en 1270. Lors de sa discussion du chapitre 18 de Genèse, c'est la visitation des trois personnages qui se révèlent eux aussi comme anges par la suite dans la tente d'Abraham. Nahmanide se livre à une critique très acerbe de la position de Maïmonide, qui avait dit d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'ange, il ne peut pas être question dans cette visitation d'Abraham de quelque chose qui s'est déroulé dans la réalité, mais il s'agit là aussi d'une projection prophétique. Et dans sa critique de la position de Maïmonide, Nahmanide mentionne également sa position vis-à-vis de Jacob. Il se pose la question, en quoi cet épisode peut être prophétique, c'est-à-dire n'ayant pas de prise dans la réalité, mais étant uniquement une projection de l'imagination de Jacob, puisque le rêve est par définition irréel, dit Nahmanide. Donc, on est acculé à nier la réalité de cet épisode, combien important. Il dit le même à propos de la lutte de Jacob avec l'ange. Alors, Nahmanide pose la question, dans ce cas-là, pourquoi Jacob boitait-il si c'était simplement un rêve? Et dans son rêve, il a été atteint à la cuisse. Pourquoi cela a résulté dans le fait que Jacob boitait. Derrière ce questionnement se situe la dimension halachique, la prescription religieuse. Si Jacob ne boitait pas, si c'était simplement quelque chose d'imaginaire, comment on peut baser une prescription religieuse qui perdure jusqu'à nos jours sur un fait qui n'a jamais existé? C'est ça qui est derrière son questionnement. Et donc, il a le souci de préserver la littéralité du texte, ayant à l'esprit ses prolongements sur le plan rituel. Alors, c'est là ce dialogue entre philosophes au-delà du temps, puisque bien que tous les deux aient vécu à un moment donné sur la péninsule ibérique, c'est quand même un dialogue qui se passe à travers, qui est détaché du temps et fait partie désormais de ce que j'ai nommé tout à l'heure la controverse maïmonidienne, qui fera couler beaucoup d'encre autour de cette question de la prophétie, comme autour de bien d'autres des positions de Maïmonide très originales sur les questions de l'astrologie, par exemple, et d'autres encore. Cela a donné lieu à une très longue tradition littéraire et philosophique entre maïmonidiens et anti-maïmonidiens, ceux qui défendaient la position de Maïmonide, parmi lesquels le propre fils de celui-ci, Abraham Maïmonide, qui a vécu en Égypte et qui était chef de la communauté juive d'Égypte, et qui amène un argument qu'on va retrouver aussi chez d'autres défenseurs de Maïmonide, qui relève qui résonne avec une étonnante modernité qu'on pourrait relier à des considérations psychopsomatiques, qu'il arrive que l'on rêve qu'on fasse un rêve extrêmement intense, que ce rêve laisse des effets sur le physique, sur le comportement physique de l'homme qui se réveille. Il donne quelques exemples. Lorsqu'on rêve d'avoir faim ou on rêve qu'on a été blessé, des fois on se réveille le matin avec une faim de loup ou avec l'impression d'être porter encore des blessures subies au moment de rêve. C'est également une réponse qui est donnée beaucoup plus loin dans l'école maïmonidienne de l'Afrique du Nord par Rabbi Ephraim Ankawa de Tlemcen au XIVe siècle, qui raconte lui-même une expérience qu'il a eue lors d'un cauchemar. Il a rêvé d'avoir reçu des coups, et que pendant plusieurs jours après, il sentait encore cette douleur imaginaire dans son corps. Il dit, voilà, notre maître Maïmonide, lorsqu'il a parlé de la lutte de Jacob, voilà, je l'ai subi dans ma chair, la réalité de sa réponse. Nous arrivons à présent, dernière partie de mon exposé, qui est l'interprétation illuminationniste. Alors, pour les corbéniens parmi nous, ce terme n'a rien de secret. Ça renvoie vers l'école de Sohrawardi et la notion de l'ishraq, l'illumination de l'intellect, au prix d'un effort philosophique intense, et qui peut signifier parfois la conjonction de l'âme rationnelle humaine avec cet intellect agent dont je vais parler tout à l'heure. Alors, dans le chapitre entre l'Andalousie et l'Iran, Henri Corbin, dans son magistral « L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi », page 34, si vous voulez prendre la référence, parle de la figure de l'ange intelligence comme Esprit Saint, ange de la connaissance et de la révélation, qui, je cite, « commande toutes les orientations s'opérant dans le champ de la topographie spirituelle selon que l'on assume la co-responsabilité du destin personnel assumé par le seul avec le seul ». Ici, nous sommes renvoyés d'emblée vers l'incipit du verset qui figurait au début de la citation, et Jacob resta seul après avoir envoyé les camps et en attendant la rencontre avec Jacob. Je cite encore, « On peut reconnaître dans cette mystérieuse figure de la nature parfaite, donc les pages précédentes, il a parlé longuement de la nature parfaite que l'on connaît de la tradition hermétiste, gréco-arabe. On peut reconnaître donc dans cette mystérieuse figure les traits de celui qui est identifié par les commentateurs avec l'ange Gabriel comme nom de l'Esprit Saint de chaque être. Et donc dans la suite du paragraphe, Corbin reprend l'expression d'un autre auteur qu'il affectionnait et donc qu'il a longuement étudié dans son ouvrage En islam iranien, Alaaddin Samnani, un grand mystique iranien du XIVe siècle, qui nous a présenté une doctrine psychologique extrêmement prenante, qui retrace les profondeurs de l'être de l'individu et qu'il dénombre au nombre de sept, qu'il y aurait sept niveau de l'âme, chacun étant représenté par un prophète, là, il y a une coïncidence entre la tradition biblique et la tradition coranique. Et le niveau le plus élevé, c'est là où on va être mis en conjonction avec l'intelligence agente, c'est le Gabriel de ton être. C'est le point le plus profond de l'être selon Samnéani. Donc, je cite de nouveau Corbin, son exégèse ésotérique, son ta'wil, hein, ce terme que utilisé par l'exégèse coranique pour décrire la démarche herméneutique, et que Corbin a longuement analysé en faisant ressortir la racine de ce mot ta'wil, awwal. Le début, c'est faire revenir le verset à son sens premier, qui est pour les mystiques son sens ésotérique ou son sens philosophique. Son exégèse ésotérique intériorise en septuple profondeur les figures de la révélation coranique. Atteindre au Gabriel de son être, c'est, en franchissant successivement les sept profondeurs ésotériques, rejoindre l'esprit qui guide et initie les sept prophètes de ton être. Cet effort pour y atteindre, c'est aussi livrer le combat de Jacob, tel qu'il fut compris en mystique juive par l'exégèse symbolique de Joseph ben Juda. Joseph ben Juda. Alors, aussi, pour les non-initiés, il s'agit d'une figure mystérieuse, mais on va découvrir dans quelques instants qui est le personnage qui se cache derrière ces dénominations. Donc, l'exégèse de Joseph ben Juda, pour qui l'âme intellective luttant pour atteindre la conjonction avec l'ange, avec l'intelligence agente, jusqu'au lever de l'aurore, et Corbin met entre parenthèses « Ishraq » précisément, et on voit son intuition, puisque je vous dis, mais je pense qu'il l'ignorait, que « Saadia » c'est le terme, c'est le verbe employé par Saadia pour désigner la fin de ce chapitre lorsque le soleil se lève, « Ishraq »,« Ashraqat Shams ». Donc, jusqu'au lever de l'aurore, lorsque l'âme émerge, délivrée des ténèbres qui l'emprisonnent. Sans doute, alors, ne convient-il plus de parler d'un combat avec, c'est-à-dire contre l'ange, mais d'un combat pour l'ange, car réciproquement, celui-ci a besoin de la réponse de l'âme pour que son être soit ce qu'il a à être. Il me semble qu'on avait débattu de cela l'année dernière lors de la journée de Henri Corbin, lorsque la thématique était l'ange. Et bon, c'est également un thème que Corbin avait beaucoup travaillé, l'ange de son être. Quel est le titre de son ouvrage ? L'homme et son ange. L'homme et son ange. Sous une autre forme dramaturgique, c'est la même histoire qui fut méditée par toute une lignée de mystiques spéculatifs juifs dans le Cantique des Cantiques, où l'aimé, n'est-ce pas, ce dialogue extraordinaire qui a été canonisé, qui fait partie de la Bible hébraïque, où on assiste à un dialogue entre l'aimé et son amoureuse. Et là, dans ces traditions philosophiques, représenté justement par Judas, Joseph ben Juda, qui a écrit un commentaire arabe, c'est un auteur juif, qui a écrit un commentaire arabe sur le Cantique des Cantiques, où l'aimé assume le rôle de l'intellect agent, tandis que l'héroïne est l'âme humaine pensante. Alors, qui est donc ce personnage rapidement mentionné par Corbin? Il s'agit en fait de Yosef ben Yehuda ibn Aknin. Hein, le nom Aknin survit encore dans la nomenclature des juifs nord-africains sous la forme de Waknin ou Akna. Il s'agit d'un auteur andalou qui a vécu à la même époque de Maïmonide, si bien que parfois on l'a confondu avec le disciple préféré de Maïmonide pour lequel il aurait écrit le Guide des Égarés. En fait, il me semblerait que ce ne soit pas le cas, et c'est Salomon Monk qui est cité en bas de page par Corbin comme étant sa source, qu'il avait découvert. Salomon Monk, qui est né en Allemagne en 1805, et à cause de l'impossibilité pour un juif d'obtenir un poste universitaire en Allemagne, il a émigré, comme bien d'autres intellectuels juifs dans cette première moitié du XIXe siècle, en France, où il a fait une carrière extraordinaire comme conservateur à la Bibliothèque nationale, ce qui lui a donné l'occasion de compulser les manuscrits arabes et hébreux de cette collection, qui a donné lieu à un classique qui n'a pas perdu de sa valeur malgré le passage de 150 ans, le mélange de philosophie juive et arabe, Paris 1859. Et il est aussi l'auteur de l'édition, la traduction de Guy des Égarés. Mais pour, justement, en vue de l'établissement de son édition, en 1835, Salomon Monk avait fait un voyage à Oxford où il a découvert justement le manuscrit de Joseph ben Judah ibn Aknin, et il parle dans son article « Notice sur Joseph ben Judah » de ce commentaire qui présente la relation de l'aimé et l'héroïne comme un dialogue entre l'âme intellectuelle et l'intellect agent. Et dans ce commentaire, il y a ce passage, il dit, puisque je commente le cantique de cette manière-là, je pourrais aussi vous présenter la lutte de Jacob avec l'ange dans « À la même lumière ». Et voilà donc le premier passage de ce texte qui, entre-temps, a été publié à Jérusalem en 64 sous le titre « Inkishaf al-Asrar wa Zuhur al-Anwar » dans la révélation des mystères et l'apparition des lumières. Ça va très très bien avec notre thématique. Et voici ce qu'il dit à la page 130. « Lorsque Jacob s'est esselé dans sa contemplation, avec son âme raisonnable, et abandonna ses facultés physiques. » En arabe, lamma infarada Ya'qub ma'a nafsihi an-natiqa bil-fikra wa hajara quwa jasadihi. Alors j'attire votre attention, pour ceux qui connaissent, et il y en a dans la salle qui sont des spécialistes de la pensée plotinienne, en particulier comment il a été transposé dans la tradition philosophique musulmane dans cet ouvrage que l'on nomme la pseudo-théologie d'Aristote, le passage qui décrit l'extase plotinienne et qui commence en arabe « Rubbama khalauti bi nafsi wa khala'atu badani janiban » Parfois, je me suis esselé avec mon âme en rejetant de côté mon corps. C'est exactement c'est une refonte de cette phrase que l'on trouve sous la plume de Yosef ben Judah, précisément à propos du combat de Jacob qui commence avec « Et Jacob est resté seul ». Et donc, Jacob cherche à savoir si la faculté de son âme intellective serait capable d'atteindre le degré de l'intelligence agente, appelé un homme, ish. Donc, c'est le terme codé pour toute la tradition philosophique du texte biblique. Et là, pour lui, c'est pas Michael, l'archange Michael, mais c'est Gabriel, l'ange de la révélation. Il soumit son âme à la peine et à l'effort afin d'atteindre ce degré, devenant comme un individu qui lutte avec son prochain, cherchant à avoir le dessus. Il ne parvint à ce degré qu'après avoir détaché son âme intellective du corps et l'avoir tiré de l'obscurité de la matière vers la lumière qu'il surnomma le lever de l'aurore. Là, on est vraiment dans la thématique de Ishraq. Voilà. Alors, la conclusion. Je trouve que par cette évocation passagère faite par Corbin, presque comme une note infrapaginale au milieu de sa réflexion sur la nature parfaite, sur l'ange de la révélation, cette référence passagère à un auteur juif est tout à fait caractéristique de sa démarche intellectuelle. Il avait une illustre habileté de prendre un puits dans son exégèse théosophique sur des textes sacrés, puisés dans les trois religions abrahamiques et qui s'éclairaient mutuellement. Et là, nous avons à la fois Ibn Arabi, Judah ben Yosef et là Ala ad-Din Samnani tout ensemble. Je vous remercie pour votre écoute.